je vais passer la parole pour continuer notre discussion sur la modernité, mais dans un tout autre lieu, donc dans un espace plus américain. Donc je passe la parole au professeur Guy Archer, professeur de philosophie dans notre université, qui va nous proposer un exposé sur le juge américain confronté au créationnisme.
Merci beaucoup. Vous avez tous une notion un peu générale, je dirais, du conflit entre le créationnisme ou les créationnistes d'une part et d'autre part la question scientifique du darwinisme en biologie. Vous avez tous une notion générale, c'est-à-dire que vous avez d'une part une vérité religieuse qui est défendue non pas par tous ceux qui acceptent la création divine par un seul Dieu, parce que ça ce sont tous les monothéistes, ça fait beaucoup de monde, mais par ceux qui adoptent, en particulier, puisque nous sommes aux États-Unis, les protestants radicaux, évangéliques, fondamentalistes, ceux qui veulent retourner aux fondamentaux, eh bien ceux-là considèrent que le darwinisme, ou en tout cas ce qu'enseigne Darwin, et ce qui était écrit dans L'Origine des espèces, qui a été publié en 1859, est en contradiction avec une lecture littérale de la Bible et en particulier de la Genèse. Donc je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce qui nous intéresse ici, c'est plus le conflit entre ces deux vérités, la vérité religieuse et la vérité scientifique, qu'évidemment une analyse plus précise de la théorie darwinienne. Mais enfin, en deux mots, vous savez que selon Darwin, il y a d'abord une évolution des espèces, c'est-à-dire que les espèces ne sont pas fixées. Il y a des variations entre individus au fil des générations et à un certain moment, ça crée de nouvelles espèces, c'est-à-dire des espèces qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de rapport entre elles du point de vue de la génération, elles ne peuvent pas faire d'enfants. Et ces espèces deviennent de plus en plus diverses. Et puis souvent elles deviennent de plus en plus complexes. Et donc il y a là un processus d'évolution, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce processus d'évolution se fait par un mécanisme tout à fait particulier qui est le mécanisme de la sélection naturelle. Hein, c'est-à-dire que dans un certain environnement, les individus les plus aptes à survivre et à se reproduire sont ceux qui restent et qui transmettent leurs caractéristiques aux générations futures, etc. etc. Bon. Ça, ce sont les deux éléments qui ont immédiatement créé chez un certain nombre de chrétiens conservateurs, bien sûr ça a été le cas en Angleterre chez les anglicans, ça a été le cas chez les catholiques, mais ça a été le cas aux États-Unis chez les protestants évangéliques. Ce qui s'est passé, c'est que ces deux éléments, la théorie de l'évolution et surtout la théorie de la sélection naturelle, c'est-à-dire le mécanisme de l'évolution, ont créé un problème pour ceux qui avait une lecture littéraliste de la Bible et en particulier de la Genèse. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que la Genèse indique que Dieu a créé l'homme à son image, qu'il a créé des espèces qui sont des espèces fixes et qui donc n'évoluent pas ou ne disparaissent pas. Tout le problème qu'il y a eu avec les fossiles, c'est-à-dire avec les espèces disparues, était lié à cela. Et donc que l'idée d'une évolution des espèces est déjà contraire à une lecture littérale de la Genèse. Et puis deuxièmement, le mécanisme lui-même, c'est-à-dire un mécanisme qui apparaît comme étant très brutal, le mécanisme de sélection dans la lutte pour la vie, comme disait Darwin, et la survie du plus adapté, ce qui est une formule de Spencer, qui est un disciple de Darwin, qui a étendu la théorie de Darwin. Bon, tout ça apparaissait aux églises comme étant totalement contraire à l'idée d'amour, de charité, d'ouverture à l'autre, de protection des plus vulnérables, qui est tellement sans dans le Nouveau Testament, il s'agissait ici effectivement de la victoire de ceux qui étaient les plus aptes et les plus adaptés à un certain contexte. Et tout ça a fait qu'il y a eu un certain refus, radical qui consistait à dire, et on le dit encore aujourd'hui, qu'au fond, bon, le darwinisme, c'était contraire à la religion, c'était une façon d'expliquer le monde qui était en conflit direct avec la vérité divine. Et comme vous le savez, la Bible, la Genèse, ben, c'est pas n'importe quel texte, c'est un texte d'inspiration divine. Et comme il est d'inspiration divine, il doit être supérieur, d'où le conflit entre la vérité religieuse et la vérité scientifique. Je n'entre pas ici dans la discussion sur le fait de savoir ce que c'est que la vérité en science. Enfin, ce qui est obtenu à partir d'expérimentations, de raisonnements, qui n'est pas une thèse subjective, collective particulière ni une thèse religieuse, mais qui est le produit ou l'état de la science à un certain moment de l'histoire. Bon. Alors, je vais très vite maintenant dans l'histoire pour vous expliquer comment ça s'est passé devant les juridictions américaines. Parce que les Américains sont confrontés à ce problème depuis une centaine d'années. Et donc, c'est non seulement très intéressant du point de vue de la problématique des rapports entre vérité religieuse et vérité, entre guillemets, scientifique, mais ça peut nous donner aussi des leçons sur ce qui se passe aujourd'hui, puisque ce conflit arrive chez nous. Il était relativement dormant chez nous. L'Église catholique n'était pas très, très agressive sur ce plan, mais il arrive chez nous étant donné l'immigration, l'arrivée des musulmans, mais aussi de toutes sortes de courants évangéliques protestants qui inquiètent d'ailleurs beaucoup les protestants installés en Belgique, qui sont très, très laïcs, très ULBistes souvent. Bon, alors, 1859, la publication de l'origine des espèces par Darwin. Ça ne pose pas de problème à ce moment-là, tout simplement parce que le problème qui va se poser sera un problème essentiellement lié à l'enseignement public. C'est-à-dire que les fondamentaux protestants vont s'inquiéter du fait qu'une grande partie des enfants qui arrivent jusqu'à l'école secondaire, et ça il y en aura évidemment de plus en plus, vont être confrontés à cette doctrine impie si on leur enseigne la théorie de l'évolution à l'école. Donc en 1859, Darwin, qui a beaucoup hésité à publier son livre, a beaucoup de problèmes, mais ce ne sont pas des problèmes qui concernent l'école, parce qu'à ce moment-là, même l'école primaire n'est pas encore très généralisée, et a fortiori pas l'école secondaire. Donc ça ne pose pas véritablement de problème. Cela ne posera de problème qu'après la Première Guerre mondiale. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, aux États-Unis, comme partout ailleurs d'ailleurs, le développement de l'enseignement secondaire, qui devient de plus en plus généralisé, fait en sorte que des générations entières d'enfants sont confrontés à ce qu'on leur enseigne à l'école. L'école a un pouvoir de formation très important, et les familles, en particulier les familles qui adoptent des positions religieuses radicales, ont une certaine inquiétude quant à ce qui est enseigné à l'école et qui pourrait contredire ce qu'elles pensent. Et dès après la guerre 14-18, les fondamentalistes agissent et incite les législateurs à voter des lois dans les différents États, en particulier dans les États du Sud, qui sont des lois très claires. Alors, il faut savoir que c'est très important parce que, du point de vue des rapports entre la vérité religieuse et la vérité scientifique, au départ, au moins, c'est clair intellectuellement. Je ne dis pas que c'est gai comme situation, c'est une situation au contraire qui est une situation assez insupportable parce qu'elle rappelle les vieilles querelles entre la religion et la science et le fait que pendant tout un temps, au Moyen-Âge, la science et la philosophie étaient servantes de la théologie, comme on disait. Mais en même temps, c'est clair, on voit bien les positions et ça n'introduit pas de confusion intellectuelle, ce qui est déjà très bien. Et donc, ces législations sont votées, mais très clairement, en disant on n'enseignera pas, il est interdit d'enseigner des doctrines selon lesquelles l'espèce humaine descend d'espèces inférieures. Enfin, c'est formulé d'ailleurs d'une façon qui n'est pas très, très scientifique, mais c'est très clair, ça vise la biologie darwinienne. Et il s'agit donc d'empêcher ce type d'enseignement. Même certaines législations disent carrément on ne peut pas enseigner ce qui est contraire à ce qui est écrit dans la Genèse et dans la Bible en général. Et donc il y a en 1925 un procès, donc c'est la première intervention judiciaire, donc où intervient le troisième terme, c'est-à-dire le droit, le juge. En 1925, il y a un fameux procès qui est un procès qui s'appelle le procès Scopes. Scopes étant un jeune professeur de biologie qui décide d'enseigner le darwinisme à l'école contre, à l'encontre d'une loi du Tennessee. On appelle ça les monkey laws, donc les lois sur le singe, si vous voulez, l'homme descend du singe, etc. C'est pas exactement ça, mais c'est comme ça que c'est vécu. Et il décide de l'enseigner pour provoquer. Pour provoquer, parce qu'il est soutenu par un certain nombre d'associations pour essayer de faire monter l'affaire vers des juridictions supérieures de façon à faire invalider ces lois si c'est possible. Bon, ça n'arrive pas, le procès a lieu, c'est un procès qui est extraordinaire, c'est le premier procès médiatique de l'histoire des États-Unis et même de l'histoire de l'Occident, médiatique avec à l'époque évidemment le téléphone, le télégraphe, la radio et pas les moyens actuels, et ils mettent l'un contre l'autre deux grandes figures, d'une part William Jennings Bryan, qui est un homme qui a plusieurs fois été candidat à la présidence des États-Unis, qui représente un mouvement populiste, donc disons de gauche, un peu les indignés de l'époque contre le big business, c'était vraiment ça au début du XXe siècle, et qui montre que l'on peut être contre Darwin à la fois pour des raisons politiques de gauche et pour des raisons religieuses de droite. puisque du point de vue des raisons religieuses, littéralistes, ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et du point de vue de gauche, c'est l'idée de dire, en fait, au fond, le darwinisme, c'est une théorie brutale de la sélection naturelle, et sur le plan des relations sociales, eh bien, ça justifie la politique de puissance, le capitalisme sauvage, etc., la victoire des plus adaptés, le mépris de ceux qui sont vulnérables, etc., etc. Il faut dire que Darwin n'a jamais dit ça, et qu'il n'a pas voulu étendre sa doctrine à la société, donc sa doctrine qui vaut pour l'évolution des espèces, et qu'il y a même un certain nombre de commentateurs contemporains, comme Michel Thor, qui est un des grands darwiniens contemporains, qui disent que Darwin a dit exactement le contraire. Enfin, peu importe, c'était dans l'esprit du temps, et donc le darwinisme était horrible, à la fois pour les fondamentalistes religieux, et pour une certaine gauche anticapitaliste et antipolitique de puissance. Et William Jennings Bryan, c'était ce type-là, populiste et à la fois très fondamentaliste, qui a essayé de faire condamner Scopes, et il avait face à lui un avocat athée ou agnostique, enfin, qui est la forme polie de l'athéisme aux États-Unis, Clarence Darrow, qui lui a défendu Scopes. Bon, Scopes a perdu parce que, évidemment, la loi était claire, il avait clairement violé la loi. Mais ça a eu pour conséquence ceci, c'est qu'après ça, après la condamnation de Scopes, on n'a plus parlé de l'évolution dans les écoles publiques secondaires aux États-Unis. Tout simplement parce qu'il y avait un ensemble d'États qui ont adopté les mêmes lois et que les éditeurs de manuels subissaient énormément de pression des mouvements religieux qui disaient ben, « si vous ici il y a une théorie d'évolution dans votre manuel, eh bien on ne l'achètera pas ». Et donc ça a disparu des manuels. Et ça a disparu, enfin peut-être pas totalement parce que c'est évidemment compliqué pour tout un pays comme ça, mais massivement ça a disparu. Et en 1957, quand les soviétiques ont lancé le Spoutnik, ça paraît absolument extraordinaire aujourd'hui, qui est le premier satellite artificiel. Bon, c'était une épreuve, ça, hein, c'était extraordinaire. Bon, aujourd'hui, il y en a des centaines de milliers. Les Américains se sont sentis, à tort ou à raison, dépassés par cette prouesse technologique et ils ont voulu muscler le programme scientifique et en particulier les programmes de biologie parce qu'il s'agissait d'envoyer d'abord des animaux et puis des êtres humains. Donc, c'était des vols habités et qu'il y avait des connaissances biologiques qui étaient tout à fait nécessaires pour essayer de comprendre tout ça. Et donc, de nouveaux programmes de biologie ont été développés. C'était l'époque où la théorie de l'évolution avait été très fortement confirmée par sa rencontre avec la génétique. Darwin ne connaissait pas la génétique, il voyait des variations, il ne savait pas pourquoi ça arrivait, mais depuis Watson et Crick, la découverte de la double hélice, etc., etc., il y avait une évolution extraordinaire de la biologie moléculaire et de la biologie en général, et donc évidemment c'est ça qu'il fallait enseigner aux enfants. Et donc les fondamentalistes ont ressorti les vieilles lois, qui était encore valide, comme on dit « still on the books », comme on dit en anglais, et ils ont voulu les faire appliquer. Et là, vous avez un premier arrêt qui est un arrêt très important, de 1968, qui s'appelle « Epperson v. Arkansas ». Excusez-moi, je vais vite, mais bon, je dois vraiment aller vite. « Epperson v. Arkansas ». Donc, Suzanne Epperson était une enseignante qui voulait enseigner la biologie telle qu'elle était dans les nouveaux manuels et qui a contesté la loi qui existait en Arkansas et qui est une loi du même ordre que la loi du Tennessee de 1925 à l'époque du procès Scopes, parce que c'était toujours des lois qui étaient en vigueur. Et elle a gagné devant la Cour suprême. Il faut bien dire que la Cour suprême des États-Unis à ce moment-là était dans sa phase la plus libérale, c'est-à-dire en notre sens la plus progressiste. Et donc la Cour suprême a considéré que ces lois étaient contraires à la Constitution, parce qu'il y a dans la Constitution des États-Unis un premier amendement qu'on connaît bien, et notamment il y a une clause de ce premier amendement qui interdit l'établissement d'une religion. Et l'établissement d'une religion, ça veut dire une religion officielle. La Cour n'a pas eu de difficulté à dire que si on interdisait dans une classe de sciences l'enseignement du darwinisme ou l'enseignement de n'importe quoi qui était le produit d'un raisonnement scientifique au nom de thèses religieuses, ben, c'est évidemment l'établissement d'une religion, c'est-à-dire une partie de la population qui lisait littéralement la Bible et qui ne voulait pas qu'on enseigne quelque chose qui était contraire à ses convictions. Et la Cour a dit c'est un établissement de la religion, c'est interdit depuis la naissance des États-Unis d'Amérique, les religions ne peuvent pas utiliser l'État pour imposer des conceptions particulières, et il s'agissait vraiment d'imposer, parce qu'il s'agissait tout simplement d'interdire l'enseignement de la biologie scientifique de la théorie de l'évolution. Et puis, alors, à ce moment-là, est apparue la deuxième phase, qui est la phase la plus importante, la plus subtile, mais celle qui introduit de la confusion, c'est qu'évidemment, toujours quand vous êtes attaqué, à un certain moment, vous ne pouvez plus continuer à avoir une opposition frontale. Si vous voulez, comme la Cour suprême a dit, il est interdit d'interdire, hein, vous ne pouvez pas interdire la biologie darwinienne, ils ont commencé à adopter des positions plus douces et plus souples. Et la première position, qui est une position très célèbre, c'est ce qu'on appelle la position de « equal time and emphasis », en disant, c'est controversé, vous allez voir, la controverse est scientifique, donc maintenant c'est plutôt un langage qui est un langage beaucoup plus adapté aux valeurs de la démocratie libérale, si vous voulez, la controverse ou de la science, c'est controversé et donc il faut enseigner les deux. Il faut enseigner à la fois la théorie de l'évolution et le créationnisme, equal time and emphasis, le même temps et la même importance accordée aux deux. Bon, ça n'a pas dû aller jusqu'à la Cour suprême. Très vite, on a dit, vous mélangez des pommes et des poires, vous ne pouvez pas imposer que quand on enseigne une doctrine scientifique, on enseigne en même temps une doctrine religieuse, une vérité scientifique et une vérité religieuse. Dans une classe de sciences, vous mélangez des pommes et des poires. Et donc, à partir de ce moment-là, ils sont devenus plus subtils, ils ont inventé la science de la création, creation science, hein, en essayant de se donner une légitimité scientifique, et ils ont de nouveau essayé d'imposer dans certains États ce qu'on appelle les lois de balanced treatment, c'est-à-dire de traitement équilibré, pour qu'on enseigne les deux. Et effectivement, à partir de ce moment-là, il y a eu de nouveau une contestation qui était plus difficile, parce que c'est évidemment plus facile de contester une loi qui interdit que de contester une loi qui apparaît plus libérale, plus tolérante, plus ouverte, etc. Et il y a eu un deuxième arrêt en 1987, donc 19 ans avant l'arrêt de 1968, qui s'appelle l'arrêt Edwards v. Aguilar. Enfin bon, vous trouverez ça sur Internet très facilement, dans lequel la Cour de nouveau considère que c'est un établissement de la religion, même si il s'agit de dire on enseigne les deux, parce que la Cour considère que en fait la position consiste à dire vous ne pouvez pas enseigner la théorie de l'évolution si vous n'avez pas en même temps un enseignement de la science de la création. La Cour montrant que la science de la création c'est pas de la science, parce qu'ils disent les scientifiques qu'ils ont une attitude ouverte et la science de la création sont des gens qui ont la Bible, et puis qui essaye de trouver n'importe quoi dans la réalité pour essayer de confirmer la Bible, et la Cour dit ça, c'est pas de la science. Et donc, d'une certaine façon, c'est de dire, si vous enseignez la théorie de l'évolution, vous aurez la belle-mère, c'est-à-dire le cours de science de la création, et de nouveau, c'est considéré comme un établissement de la religion. Et puis, c'est fini, et on en arrive à l'époque contemporaine, j'ai presque fini, et puis, c'est fini, la Cour suprême n'intervient plus. Elle n'intervient plus sur le sujet. Une des raisons, c'est que la Cour suprême est devenue plus conservatrice et que donc ceux qui voudraient contester un certain nombre de lois sont plus prudents. Hein, bon. Et puis une autre, c'est que ça n'est jamais arrivé, il n'y a jamais d'affaire qui soit arrivée jusqu'à la Cour suprême. Mais il y a une affaire très importante qui ne concerne qu'un district aux États-Unis, c'est-à-dire un morceau de territoire de la Pennsylvanie. C'est pas beaucoup, elle n'est valide que sur ce district, mais elle a eu un tel effet médiatique aux États-Unis je vous engage absolument à vous y intéresser. Et pour aller vite, puisque je dois terminer, vous allez sur le site pbs.com, qui est le site de la télévision publique américaine, très bon, très bonne télévision publique, mais mieux qu'ici. Les autres télévisions, c'est pas terrible, mais celle-là, c'est bien. Et ils ont tout un site sur le créationnisme, la controverse du créationnisme. Alors il faut savoir que plusieurs stratégies qui sont des stratégies de plus en plus subtiles des adversaires du darwinisme et qui consistent à de plus en plus utiliser le langage de la science, de la démocratie en disant il faut être tolérant, il faut être ouvert, il faut enseigner la controverse, il ne faut pas enseigner une seule théorie, etc. Et pour ça, ils ont créé la théorie du dessin intelligent, avec EIN, Intelligent Design, qui consiste à dire, alors cette fois-ci, nous ne sommes plus du tout des gens qui nous réclamons de la Bible, on est des scientifiques comme les autres, et on considère qu'on ne peut pas comprendre, rendre compte de la complexité des organismes. C'est tellement compliqué qu'il faut présupposer un créateur. Hein. C'est le vieil argument de la théologie naturelle. Vous trouvez une montre sur la plage, vous vous dites qu'il faut bien qu'il y ait eu un horloger, c'est tellement bien fait, tellement bien agencé, etc. Pas vous trouver un organe parce que celui-là est mort. Enfin, l'organisme a une telle complexité que par analogie, vous devriez dire, eh bien sûr, a fortiori, il faut présupposer un designer. Et ils ne disent pas créateur, parce que si on dit créateur, on va leur dire c'est de la religion. Ils disent designer, une sorte d'ingénieur, d'architecte, de concepteur. Et ils essayent de prouver ça. Et de nouveau, ils n'osent même plus demander l'equal time and emphasis. Ils imposent simplement, et c'est ça la grande querelle qui aura lieu à Dover, c'est vraiment la fin de mon exposé, la querelle qui aura lieu à Dover, c'est une petite ville de Pennsylvanie, un peu l'équivalent du Dayton de 1925, dans laquelle le Board of Educators, donc qui est le conseil d'éducation qui
définit les programmes, décide qu'on va dire aux élèves au départ, il y aura une sorte de disclaimer. Disclaimer, c'est un avertissement, si vous voulez, disant que, bien sûr, on enseigne la biologie darwinienne, on est bien obligé, c'est la loi qui le veut, mais qu'en même temps, il existe une autre théorie, la théorie du dessin intelligent, et qu'on met à la disposition des élèves des exemplaires du volume le plus important qui s'appelle Of Pandas and People. Et c'est tout. Et puis après, on enseigne de la biologie scientifique. Les professeurs ont refusé cet avertissement, qui était déjà, imaginez-vous, d'où on est quand on est comme on était en 1925, donc c'est beaucoup plus modeste. Ils ont refusé en disant ça va décrédibiliser l'enseignement et on ne veut pas qu'on distribue ces livres du dessin intelligent. L'école l'a fait lire par un membre de l'administration, qui est dans une relation hiérarchique, et puis il y a eu une plainte devant un tribunal fédéral venant d'enseignants, venant de parents, venant même d'un prêtre protestant qui était un très bon biologiste et qui ne supportait pas cette intrusion de la religion dans la biologie. Et alors il y a eu un procès qui est le procès de Dover. Il s'appelle Kitzmiller. Kitzmiller est la première plaignante avec K. Vous trouverez ça sur internet. Et dans ce procès, le juge qui s'appelle le juge Jones, qui était un juge conservateur, qui avait été nommé par Bush. Donc, comme on dit, le siège n'était pas très très bon, quoi, hein, bon pour les plaignants. Eh bien, ce type-là a été extrêmement honnête. Et il s'est dit, bon, ben, il y en a qui disent que le dessin intelligent, c'est une autre conception scientifique et qu'il faut aussi au moins avertir de son existence. D'autres qui disent, c'est de la religion déguisée. Et il a effectivement fait interroger tous les grands scientifiques, ou beaucoup de grands scientifiques des grandes universités. Les défenseurs du dessin intelligent se sont complètement plantés. Leur données dataient d'il y a 30 ans, il n'y avait pas de contrôle par les pairs, etc., etc. Il s'est aperçu que les mêmes personnes qui parlaient de dessin intelligent, quand ils n'étaient pas dans le domaine de l'école, parlait de créationnisme pur et dur et donc que quelque part on se moquait de la cour. Et pour finir, il a considéré que cet avertissement était un établissement de la religion. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et dernière chose, mon héroïne dans l'affaire, c'est une philosophe qui s'appelle Barbara Forrest avec deux R, Forrest, hein, et qui elle a montré un truc formidable. Elle a montré que le livre Of Pandas and People avait commencé à être écrit en 1986. Je vous rappelle qu'en 1987, c'est l'arrêt Edwards v. Aguilar qui dit le traitement équilibré du darwinisme et de la science de la création, c'est inconstitutionnel. Donc, écrit avant, il y avait plein de références à la science de la création. Et juste après l'arrêt, elle a trouvé des manuscrits. Juste après l'arrêt, elle montre le même texte et ils ont supprimé 150 fois le mot créateur, ils l'ont remplacé par designer, etc., etc. Et elle dit, si vous dites que votre dessin intelligent vient de la logique intrinsèque de la recherche scientifique, c'est une blague. Ça vient de votre conception religieuse, puisqu'on le voit, dès qu'il y a une décision de justice, vous allez simplement barrer les termes pour essayer de défendre les mêmes thèses en adoptant un langage plus politiquement correct. Voilà, nous en sommes. Je m'arrête. J'ai pas regardé au début, j'espère que bon, c'est bon.
Un tout grand merci. Merci.